La question de David.
Quelle est la spécificité de la terre d'Israël? On dit qu'il y a une douche en elle-même, ensuite quand les Israélites sont revenus à l'exil de Babylone, il y avait une seconde douche. Il y en a qui disent que ça cadre de la souffrance, donc il y a une particularité à cette terre.
Absolument. Bon, pour répondre d'abord à ces questions au niveau... Première, un peu plus profondément. C'est une terre sainte. Aras HaKodesh, la terre de sainteté. Est-ce qu'elle est actuellement sainte? Oui. Il y a deux frontières. Il y a deux frontières de cette terre durant l'histoire. Qu'est-ce qu'on appelle Aras Israël? Où sont les frontières de la terre? Alors, il y a les frontières de ce qu'on appelle la conquête des sortants d'Égypte, Josué, et la conquête de ce qu'on appelle les sortants de Babylonie. Ezra Sopher, amène avec lui 42 000 juifs de l'Empire perse, après qu'ils ont été déportés, donc, premier exil. En moins 586, Nabucodonosor déporte tous les juifs en Babylonie pour un exil de 70 ans. Après 70 ans, Ezra Sopher revient avec 42 000 juifs ici en terre d'Israël et occupe la terre d'Israël. Des frontières différentes. Grosso modo, c'est la même chose, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. La conséquence qu'il y a entre ces deux frontières, c'est au niveau, par exemple, aujourd'hui, de la Shvite. Shvite, c'est la septième année, on n'a pas le droit de travailler la terre d'Israël. Les fruits ont une certaine sainteté. On ne peut pas les exporter à l'étranger, on ne peut pas les gâter pour rien. Et uniquement, on parle uniquement des fruits qui ont poussé en terre d'Israël. Quelle terre d'Israël? Celle de la conquête des sortants d'Égypte ou celle de la conquête des sortants de... l'Empire perse, qu'on appelle le Kibouch Bavel, la conquête babylonienne. On va aller pour la conquête babylonienne. On dit que la sainteté de la terre des sortants d'Égypte a disparu. Paradoxal, parce qu'on sait bien que la conquête, la première conquête, elle est beaucoup plus grande au niveau de sa sainteté. C'est Josué, c'est les miracles de cette conquête. Le Jourdain s'est ouvert comme à l'époque de la mer Rouge aussi. Il y a encore la prophétie, il y a le premier temple avec la sainteté qu'il n'y avait pas au deuxième temple, celui de Ezra. Alors, paradoxalement, cette grande sainteté qui est la première a disparu et la deuxième est restée. Pourquoi? Tout simplement parce que la première est le résultat d'une conquête. Ce qui vient, une sainteté qui vient par conquête, peut disparaître par conquête. Nabucodonosor fait une conquête militaire, déporte tous les juifs de la terre d'Israël, donc une conquête peut venir annuler une conquête. Par contre, le deuxième temple a été détruit par la conquête romaine. En 135 de l'ère chrétienne, donc en 70, le temple est détruit. Les Romains laissent la population autochtone, les Juifs, en terre d'Israël. En 135, Bar Corba dirige une révolte contre les Romains. Adrien, le général d'Adrien, qui devient après empereur, amène une armée de 120 000 hommes qui mate cette révolte dans un massacre terrible. Terrible, terrible, terrible. Et les quelques centaines de milliers de Juifs qui restent en terre d'Israël sont déportés. Et la terre d'Israël reste vide. Donc, la conquête romaine ne peut pas annuler l'installation de Ezra. Pourquoi? Parce que l'installation d'Ezra ne s'est pas faite par conquête, elle s'est faite par autorisation des nations. C'était l'Empire perse. Le roi perse, Koresh en hébreu, Cyrus en français, tel que le raconte la Bible, fait un rêve. Dieu lui parle dans un rêve, lui dit « Je veux reconstruire mon temple à Jérusalem. Envoie à tous les juifs de mon peuple qui sont dans ton empire à reconstruire le temple. » Et t'imagines maintenant, c'est pas Bush, c'est Bush et Poutine et tous les pays du monde, l'ONU, d'accord, et tout au coup, ils ont tous une prophétie. Et tout au coup, ils disent tous ensemble, écoutez, Dieu nous a parlé, les Juifs, allez reconstruire vos temples à Jérusalem. Ce qui s'est passé, Cyrus fait un édit, Dieu m'a parlé en rêve, m'a demandé de reconstruire son temple, alors tous les fils de Juda, donc c'est les Yehoudim, les Juifs, allez-y, vous avez l'autorisation complète, plus encore, il va payer même, il va aider au niveau des matériaux pour la construction de ce temple-là. Donc, vu que le deuxième temple, la deuxième conquête, a été faite par autorisation des nations, aucune conquête ne peut venir et l'annuler. Donc, la sainteté de la terre d'Israël reste dans les limites de la conquête de Olé Bavel, de l'immigration provenant de Babylonie. Elat, par exemple, ne fait pas partie de la terre d'Israël. Pardon? On n'a pas conquis. Qui l'a conquis? L'État d'Israël actuel. Alors, faut pas faire la confusion. L'État d'Israël actuel n'a aucune valeur au niveau de la sainteté de la terre. Bientôt viendra Mashiach, et lui pourra faire qu'il y ait une sainteté. C'est pas, la sainteté ne vient pas comme ça automatiquement. D'accord? C'est des prophètes, c'est tout un... beaucoup de choses qu'il faut pour que la sainteté, tout à coup, prenne de l'ampleur ou minimise. C'est pas nous qui pouvons, par le fait de faire une conquête, tout à coup, on décide, voilà, cet endroit, il devient ça. On parle de sainteté. On parle maintenant, par exemple, de faire Yom Tov un jour ou deux jours. Est-ce que les fruits ont la sainteté de Shvit, Orla? Orla, les trois premières années ici, les fruits sont interdits. C'est interdit de la Torah. À l'étranger, c'est des Rabbanan. Beaucoup de lois. Ici, on fait les masres, des prélèvements. Tu prends une pomme, une petite pomme, d'accord, en Israël, il faut faire combien de prélèvements? Trouma Gdola, au Kohen. Maaser Rishon, au Lévi. Trouma Maaser, Lévi qui donne au Kohen. Maaser Sheni, ça devient une sainteté où on rachète, on demande aux gens sainteté à Jérusalem à l'époque, lorsqu'on était pur. Maaser Ani, pour les pauvres. Ta Issour de Orla, ta Réveil, tous ces lois qui sont pratiquées ici. Minuscule, malheureuse pomme. D'accord? Tout cela dans les limites de la terre d'Israël. Israël, il faut comprendre, la conquête de Babylone. Tov. C'est pas on dit, c'est marqué dans le traité Brachot, page 5, trois choses s'achètent avec souffrance. La Torah, Olam Haba, le monde à venir, et la terre d'Israël. Le pourquoi de la chose, il est simple. Il est impossible dans la configuration telle que le monde existe d'obtenir une chose de valeur sans effort. Rien qu'au niveau physique. Quand tu es à vélo, si tu avances à 50 km à l'heure sans pédaler, c'est vrai que tu es en descente. Tu veux monter, c'est impossible que ça avance tout seul. Tiens, c'est marrant mon vélo qui monte tout seul. Il faut pédaler. Et plus c'est dur, plus c'est que tu es en train de monter. De même que c'est physiquement, c'est ainsi de façon spirituelle aussi. Le Talmud traité Megillah dit « Yagata matzata ta'amin ». T'as peiné, t'as trouvé, tu peux croire que tu as trouvé. « Yagata lo matzata », t'as peiné et t'as pas trouvé, crois pas que t'es peiné. C'est pas encore assez.
Ça marche pour la Torah ou pour le
Mais la terre d'Israël est une chose métaphysique. Bon, on va expliquer peut-être plus profondément maintenant. Pourquoi la terre d'Israël a-t-elle effectivement une chose qui a tellement de valeur? Cette terre est adaptée à son peuple. Le peuple d'Israël est un peuple, c'est marqué En Mazal Israël. Traduction littérale fausse. Mazal, c'est chance. Pas de chance pour le peuple d'Israël. C'est vrai, c'est 3000 ans qu'on n'est pas trop chanceux. Ça, c'est la mauvaise traduction. La vraie traduction signifie mazal, vient du mot nozel, cool. Nazel, c'est un rhume. D'ailleurs, je crois qu'en français, le mot ne, naz, ne, avec un z à la fin, vient de l'hébreu nozel, que ça coule, d'accord? Ça coule. Rarement, la langue coule, les oreilles coulent, les yeux coulent. C'est le nez qui coule, d'accord? C'est l'organe, par excellence. Donc, nasal. Qu'est-ce qui coule? Alors, de son idéal, c'est le flux de Dieu qui coule et qui descend vers l'humanité. Dieu a créé un monde physique. Et ce monde physique, même la physique aujourd'hui le dit, il est géré par des énergies. La physique, c'est bien, te dira, la Terre, c'est pas une table, ce sont des champs, des électrons qui tournent très vite, qui créent des champs, de l'énergie, l'énergie atomique, etc. Donc, il y a des forces. Ces forces sont gérées par des forces spirituelles. De même, donc, il y a une logique, tout un édifice physique, un édifice qui est métaphysique. Et cet édifice métaphysique s'occupe qu'il y ait un flux de vie qui provient de la source de vie Dieu. C'est marqué que chaque petit brin d'herbe, il y a un ange qui vient qui lui dit « grandis ». Les petits enfants croient qu'il y a un petit ange qui vient avec des ailes comme ça, et à chaque petit brin d'herbe, ting, qui donne comme ça un petit coup de baguette, « grandis ». Bon, au niveau plus intelligent, on va dire, plus mature, il y a une force spirituelle qu'on appelle ange, d'accord, c'est une force spirituelle qui fait que ça pousse. Qui fait que ça vit. C'est quoi la vie? Le secret de la vie? Personne ne connaît. Comment tu vois un corps mort, un corps vivant? C'est certain qu'il y a une force spirituelle La Terre tourne. Alors, on me dit, il y a des forces. Force de gravitation, force centrifuge, centripète, ok, mais c'est des forces. Elles sont où les forces? Une force, c'est une chose spirituelle. Une fois, j'ai rencontré un gosse de 12 ans. Je lui parle de spirituel, il ne comprend pas de quoi je parle. Je lui dis, moi, ce que je vois, c'est qu'il existe. Tu parles de Dieu. Alors, j'ai pris mes clés, je n'ai pas mes clés dans la poche, j'ai pris un mouchoir comme ça, je lui dis, regarde. Je lâche, ça tombe, comment ça se fait? Il y a une force. Tu la vois? Non. Donc, il comprend qu'il y a des choses qui existent, qu'on ne veut pas voir. Il y a des forces. Dieu a créé 70 nations. Il y a plus de nations dans le monde, mais il y a 70 groupes de peuples. Ces nations sont gérées aussi par un mazal. Ça veut dire une réalité spirituelle métaphysique par laquelle coule le flux de Dieu vers ces nations. Qui va définir quelle richesse aura cette nation? Combien il y aura de paix, combien il y aura de maladies, combien il y aura de... Tout est géré par Dieu, par le mazal. Dieu envoie un flux par le tuyau, on va appeler ça des tuyaux, d'accord? Par lesquels ça coule, des tuyaux métaphysiques par lesquels ça coule. El mazal, Israël n'a pas le mazal. Dieu n'a pas créé pour le peuple d'Israël, dans la logique, dans l'édifice de la création du monde, il n'y a pas d'une chose qui s'appelle Israël. C'est pas, ça rentre pas, c'est pas naturel dans la nature. Il y a une nature physique, une nature métaphysique, mais c'est une nature. Il n'y a pas Israël, ça n'existe pas. Abraham, le grand-père de Jacob, qui est surnommé Israël, donc, le grand-père du peuple d'Israël, n'a pas d'enfant. Il est stérile. Chazal nous dit, il regarde dans les étoiles, il voit qu'il n'aura pas d'enfant. C'est quoi il regarde dans les étoiles? Il regarde dans la structure métaphysique du monde. Il voit, moi j'ai pas de place là-dedans. Ça s'arrête avec moi. Moi et ma femme, on n'a pas d'enfant. On n'existe pas, c'est fini. Dieu lui dit, c'est vrai, mais je te mets au-dessus des astres. Au-dessus du matin. Toi tu vas te brancher directement avec moi. Naturellement, tu n'as pas de place. Tu es surnaturel. Mais étant surnaturel, on doit se brancher à la source surnaturelle. Ça s'appelle Torah Mitzvot. Quand le peuple juif fait Torah Mitzvot, il est branché directement. Mitzvah, ça veut dire branchement. En bon français, le mot mitzvah signifie union, branchement. Mitzvah égale branchement. Donc, je dis Mitzvot, et plus grand mitzvah, c'est l'étude de Torah, donc je suis branché à la source. Donc, je vis surnaturellement. Nous sommes un peuple surnaturel. On est né où? Dans le désert. On n'a pas de terre. On est indéfinissable. Donne-moi la définition rationnelle du juif. Religion, on peut être non religieux et juif. Quelqu'un peut dire j'en ai. Pour moi, c'est des sornes à cette religion, c'est de la foutaise. Il est juif. Il peut se convertir au christianisme ou à l'islam, il est juif. Donc, c'est pas une religion. Est-ce que c'est une descendance génétique? Tous les enfants d'Abraham, Trak et Jacob? Non. Tu peux te convertir. Et les plus grands peuples juifs, c'est très souvent des convertis. Mashiach. Le Messie que nous attendons, c'est un descendant du roi David. Son arrière-grand-mère, c'est une convertie, Ruth Moabit. Il est le fils de convertis. Shmaya et Avtalion, c'est deux maîtres, des convertis eux-mêmes. Akiva, fils de Yosef, le converti. Rabbi Meir, le grand Rabbi Meir Balanes, arrière-petit-fils de Néron César. Dans la culture latine, c'est marqué que Néron est devenu fou. C'est vrai, il s'est converti. Pour eux, Marbout. César Néron qui se convertit au judaïsme, il est devenu fou. Il a mis feu à Rome, il est parti, il s'est taillé ici. Ouais, eux ne savent pas. T'imagines l'archouma pour les Romains de dire que leur César s'est converti au judaïsme, c'est pas possible. Donc il est devenu fou. Voilà, il a mis feu à Rome et il a disparu de la circulation. Voilà. Traité Guitine, page 57, je crois, c'est marqué là-bas que Meir, petit-fils de Néron. Donc, un juif n'est pas un descendant d'Abraham, Isaac, Jacob, forcément. Est-ce que c'est un peuple qui est défini par une appartenance à une terre? Non, on n'est pas né sur cette terre. Ce n'est pas cette terre qui nous définit en tant que juif. La majorité des juifs n'ont pas mis leurs pieds sur cette terre toute leur vie. La majorité de l'histoire juive, les juifs n'ont pas habité cette terre. Donc nous ne sommes pas définis par cette terre. Donc qu'est-ce que nous sommes? Avec ces 30 secondes de réflexion, je vous laisse.
Un peuple de nomades.
Un peuple de nomades. C'est quoi un peuple?
Une entité.
Une entité définie par?
Une entité.
Une entité définie par? Non. Non, non, quelqu'un peut dire, moi, j'ai pas la culture juive. Moi, j'ai aucune culture juive, moi, je sais. La croix, tout ça. Hein? Pardon? C'est quoi la 300? Qu'est-ce que la 300?
le fait d'avoir justement cet héritage spirituel, ça peut être que ça.
Attends, tu as un voisin qui s'appelle Martin Dupont, d'accord ? Il dit, monsieur, vous êtes juif ? Oui. C'est quoi un juif ? Une transcendance spirituelle. De quoi vous parlez ? Quoi ? Moi, je n'ai pas une transcendance spirituelle ? Mais quelqu'un qui ne pratique pas, il n'est pas juif ? Il est juif ? Alors là, Rousse, qu'est-ce qu'il dit ? Juif appartenant au peuple juif. Ils ont vu le problème. Ils n'ont pas de solution. Voilà, on tourne en rond.
C'est pas la même chose pour un chrétien, musulman.
Un chrétien, c'est une religion. Tu peux être français chrétien, tu peux être français athée, tu peux être italien athée, italien chrétien. Musulman, tu peux être musulman, c'est une religion aussi. Il y a arabe chrétien, arabe musulman. Au Liban, tu as des arabes chrétiens, des arabes musulmans. Tu peux avoir un français musulman, il n'est pas arabe, mais il est français musulman. Il y a bientôt un grand américain musulman, bientôt. C'est une religion. Nous, ce n'est pas une religion.
C'est un mode de vie.
Quelqu'un qui n'a pas le mode de vie, il n'est pas juif. Il est juif. Un juif, c'est ni une religion, ni un peuple défini par une terre, ni une descendance génétique, ni un mode de vie, ni un mode de pensée. Alors, la réponse, je donne dans différents cours déjà.
Elle dit aussi que celui qui ne fait pas Shabbat, celui qui fait ça, 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 il est retranché.
Il est retranché, mais il est juif. Israël, afapishechata, Israël où ? Clair comme l'eau de roche. Un Israël, même s'il a un statut de non-juif, à certains égards, il est juif.
Il faut accepter un dieu unique.
Les Arabes aussi, est-ce que c'est un dieu unique ?
On dit...
Un non-juif qui accepte un dieu unique, il est juif ou pas ? Il est non-juif. Un juif qui accepte plusieurs dieux, il est juif ? Il est juif. Donc on ne peut pas dire que maintenant le fait d'accepter un dieu unique, c'est ça qui te rend juif. Donc, en deux mots, ne cherchez pas, il n'y a pas de solution. Il n'existe aucune, absolument aucune définition rationnelle du juif. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas naturel. On est surnaturel. Branché autre part, rien à voir. C'est un bidule machin qui existe, les juifs. Indéfinissable. On est bien là. Et on parle de nous sans cesse. Pourquoi ? Parce que ça dérange. Dans l'ordre de ces 70 tuyaux qui amènent le flux de Dieu sur Terre, toi, on ne compte pas, on ne calcule pas là-dedans. Alors, si tu es branché là-haut, ça va ? T'es à la source, tu prends directement. Mais si t'es pas branché, comme hélas durant toute notre histoire, alors on est en exil, hors de notre terre. On va dans les pays d'accueil et on mange le pain des Français. Mais ils ont raison. On dérange. On dérange. Quand t'es 1%, 2%, 5%, ça fait 10%, tac, ça crée une réaction xénophobe. C'est quoi ces gens-là ? Ou assimilez-vous, ou dégagez. Enfin, qu'est-ce que c'est ce truc machin-là ? On a une terre depuis 60 ans, messieurs. Une terre, on ne la reconnaît pas. Après la guerre, il y avait un grand chacham, qui s'appelait Rav Mordechai Progomansky. Après la guerre, il s'est réfugié à Paris. Et c'était en 45, 46, 47. Bagan, le tohu-bohu. Personne ne savait quoi faire des juifs. Aller en Amérique, venir en Israël, quoi faire, qui, quoi, comment. Et on parlait d'un éventuel création d'un foyer juif, d'un état d'Israël en terre d'Israël. C'était un rave d'une grandeur inimaginable. Je vous raconte pour vous situer un peu de quoi il s'agit. Lui recevait du monde une heure par jour, et tous les jours venait une orpheline, déjà âgée, 20 ans, 25 ans, comme ça, lui poser des questions. Toujours il la recevait. Il était accueilli dans une famille d'accueil, ce rave. Il n'était pas marié. Et un beau jour, la famille d'accueil a eu l'idée, peut-être qu'on fait un chidour, une rencontre entre cette fille, cette orpheline, et lui. Alors, ils vont proposer au rave, il y a une jeune fille qui vient, tout ça, une fois par jour, poser des questions, tout ça, que vous pensez-vous faire un chidour avec elle ? Il dit, bon, ok, mais il faut que je la voie. Enfin, quoi, il faut que vous la voyez ? Elle vient tous les jours, ça, jeune fille. Vous croyez que je la vois ? Ben, vous lui parlez ? Oui, je lui parle, mais... Vous comprenez ? Moi, je ne comprends pas. D'accord ? Ben, bon, ça, des gens comme ça. Alors, on lui a demandé... Est-ce que ce projet maintenant sioniste de créer un État en Israël, ça va marcher ? Il dit, ça va marcher. Mais, il a dit, mais, jamais ils n'auront la reconnaissance des nations. Et regardez, on est 60 ans plus tard. Tous les pays qui ont eu une autonomie, une indépendance, alors 1, 2, 3, 4, 5, 10 ans, ça fait un peu du grabuge à côté, on n'est pas content. Au bout d'un moment, on se calme, ça va, là, 60 ans que t'es là, ça va. Je suis là, ça va, j'ai des routes, j'ai un État, ça va. Et, regarde, un pays entier qui est là, qu'est-ce que c'est ? T'es pas... C'est inimaginable, t'as aucun cas similaire dans l'histoire. Un peuple, une terre, on dit, vous n'êtes pas... Et en plus, on est à notre place, on n'est pas pris le Birobidjan, comme vous voulez, Herzl, on n'a pas pris l'Ouganda, on a pris la terre d'Israël, il y a des vestiges archéologiques, on y était il y a 2000 ans, on y était il y a 3000 ans. Ça va ? Est-ce-moi ? Non, tu n'as pas droit à cette terre. Donc ça veut dire que nous sommes au niveau physique, nous sommes out. On ne nous compte pas. On est surnaturel. Notre identité, notre éternité, étant branchée là-bas, on est surnaturel. Donc on passe l'histoire. L'histoire est passée, nous on reste. Tous les peuples disparaissent. Ils changent. Ce n'est pas les mêmes. Nous on reste le même. La terre, c'est notre sujet quand même, elle a le même caractère. C'est une terre hors réalité. Connaître la Torah, que les yeux de Dieu sont sur cette terre du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Ça veut dire, dans toutes les autres nations, il y a toujours ce tuyau, ce mazal, c'est un ange, c'est une réalité spirituelle par laquelle a lieu le contact en Dieu et ce pays. C'est pour cela qu'il est marqué que tout celui qui habite l'étranger, c'est comme s'il n'a pas de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas en contact direct avec Dieu, il passe par l'ange. Il est marqué aussi que tout celui qui habite à l'étranger, c'est qui ? Comme s'il fait Avodah Zarah, il est idolâtre. Quoi idolâtre ? Je ne comprends pas. Baba Salé, quand il est à l'étranger, était idolâtre. Haaretz Chaim était idolâtre. Moshe Feinstein était idolâtre. Tous les grands de ce monde qui étaient le Gaon de Vilna, idolâtre. Etc. Baal Shem Tov, etc. Cheikh Gemara, Ktubot 111. Alors, les commentateurs expliquent, c'est pas idolâtrie, chassé shalom. Mais chaque fois que tu fais une mitzvah à l'étranger, ça passe par le mazal. Tu fais une mitzvah, donc tu fais monter un flux vers le haut, ça passe par l'ange, qui prend un impôt, qui prend une partie pour lui aussi. Donc tu sers une autre entité que Dieu, qui s'appelle Avodah Zarah. De façon, comme si, comme, c'est pas vraiment Avodah Zarah. Les mitzvot n'ont un sens véritable, authentique, qui s'est en terre d'Israël. Qui dit ça à Rashi, le Ramban. C'est marqué dans le deuxième paragraphe de Shema Israël, dans le verset de la Torah, « Vayu le tzotafot ben anech, vayu le tzotafot ben anechem, ils seront en front entre vos yeux. » Rashi sur place dit là-bas, « Hatzivil arsiyonim, mettez-vous des signes. Faites les mitzvot, mettez les tfilines, mettez le tzitzit, faites le shabbat. Comme ça, quand vous reviendrez en terre d'Israël à la fin des temps, vous n'aurez pas oublié comment on fait. » Donc la seule raison, quelque part, pour laquelle on fait les mitzvot à l'étranger, c'est pour ne pas oublier quand on reviendra en terre d'Israël. En soi, la mitzvah n'a pas d'importance. On me dira, alors quoi, tous ces grands haramim, ils n'ont rien fait. Ils ont fait. Ils ont fait énormément. Ils ont fait que nous, grâce à aujourd'hui, nous pouvons faire. Donc c'est aussi un mérite énorme. Mais ça te montre quand même qu'il y a une très grande nuance entre là-bas et ici. J'ai dit dans mon Rabbi Nachman de Breslav, je n'ai pas vu ça dedans, mais on m'a dit, il dit, ça vaut la peine mille fois de perdre toute sa fortune pour payer rien qu'un billet d'accès en bateau ou en avion pour aller en terre d'Israël. Rien que le billet. Parce que tu es dans une autre réalité complètement. Puis, entre nous, ça se sent. Ça se sent. C'est marqué, Avira d'Israël Markim, l'air d'Israël rend sage. C'est un cadeau fantastique. Et Jérusalem, je ne te dis pas. Dernièrement, un de mes élèves, il a parlé avec le Shamash, le secrétaire de Rabbi David Abouhatser, un des grands de ce monde-là. Il a des problèmes, tout ça. Alors, il lui a dit, vous, à Jérusalem, vous avez Dieu au-dessus de vos têtes. Et ça aussi, ça se sent. Ça se sent. C'est marqué dans le Shulchan Aruch, la Halakha, Mishnah, la Gemara, Shulchan Aruch. Kulan Alin l'Yerushalem. Tout le monde va à Jérusalem. C'est la chance d'être ici, c'est extraordinaire. Qui l'a cru ? Dans les mariages, on dit Odishama Beregoda. Encore on entendra dans les montagnes de Juda et les quartiers de Jérusalem, Kosatan Kosimcha, la voix. Une voix de joie, une voix d'allégresse, kol hatan et kol kala, la voix du hatan, du fiancé et de la fiancée. C'était un rêve. Aujourd'hui, on a 100 par jour ici à Jérusalem, le mariage et de voix de hatan et de kala. C'est une réalité qu'on ne se rend pas compte ce que c'est. Nos parents s'y pensaient qu'on est chez Israël. J'ai dû aller chez en Israël, mais ils se mettaient à pleurer. Israël. Eretz Israël, les gens réveillés, ils embrassaient la terre, se roulaient dans la terre. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le domaine naturel, on passe ici dans ce domaine surnaturel. C'est-à-dire que même mourir en terre d'Israël, c'est un mérite. Enterrer en terre d'Israël, c'est un mérite. Il y a mourir, il y a celui qui meurt à l'étranger qu'on amène son corps, rien qu'enterrer, c'est déjà un mérite. Le mieux, mourir ici. Rien qu'en soi, parce que c'est tellement kadosh, tellement c'est saint, la terre, elle est sainte. Attends, aujourd'hui, c'est encore un peu caché, il y a des kippraïs, des machins, que, bon, ça empêche encore de passer, mais très bientôt, tout ça va partir. Anormal.
C'est justement ce que j'allais dire, parce qu'en fait, c'est Kadosh dans le sens où, maintenant qu'il n'y a plus de Beth Amikdash, Parce que ça, c'est la plupart des gens comme Rambam, etc., ils font allusion à parce qu'en fait, c'est des contemporains, je veux dire. Ils n'ont pas connu, ils ne voyaient pas les intérêts intellectuellement. Comme c'est un état d'avis, est-ce qu'on peut dire, toujours penser qu'il est...
La mitzvah, Maïmonide décrit très clairement que la mitzvah d'habitateur d'Israël, elle est intemporelle. Tout le monde est d'accord là-dessus. Est-ce que c'est mitzvah des Rabbanan ou des Oraita? C'est mitzvah des Rabbanan d'après Maïmonide, et comme ça, on tranche. Le Ramban, il dit non, c'est mitzvah des Oraita. Tout le monde est d'accord que c'est une très très grande mitzvah. Très très grande mitzvah. Donc, pour répondre à la question, vu qu'il est impossible d'accéder à une chose de valeur sans souffrance, la terre d'Israël, c'est presque la plus grande chose que nous avons. Regarde, le Yetzer Hara, dès que le peuple d'Israël sort d'Égypte, le Yetzer Hara commence à nous enquiquiner. Le peuple d'Israël fait des péchés, vaudor. Dieu passe l'éponge. Après, ils disent, on veut rentrer en Égypte, là-bas, ben, on mangeait mieux. Dieu passe l'éponge. Après, ils se plaignent de la manne. Dieu passe l'éponge. Beaucoup, beaucoup, ils font d'histoire. La parachute de cette semaine. Ils ont un explorateur en Israël et disent on ne peut pas rentrer en terre d'Israël. C'est comme ça. Vous avez pleuré une nuit pour rien. Quand vous avez pleuré, vous aurez des bonnes raisons de pleurer. En résultat, à ce moment-là, a été signé que Moshe Rabbeinu ne rentrait pas en terre d'Israël et que ce temple, le temple qui serait construit, les temples qui seraient construits, premier et deuxième, seraient des temples. Comment dire cela ? Destructible, temporaire. On est parti pour quelques milliers d'années de bria, de pleurs. Pour une nuit qu'on a pleuré, qu'est-ce que Dieu nous amène maintenant dans une terre? On ne veut pas de cette terre. Tellement c'est un grand cadeau. Le grand, grand, grand cadeau. Tu es en contact direct avec la divinité. Contact direct, c'est là. Plus que cela, après, chaque juif ici, il fait partie d'une tribu. Il a un héritage, il a une certaine partie de la terre qui correspond à son âme. C'est-à-dire qu'il va, quand Machar viendra, il dira chacun, toi t'es tribu Naphtali, toi t'es Dan, toi t'es Asher, etc. Tu vas dans ton endroit, c'est le meilleur endroit au monde où tu peux réaliser ce que tu es. Donc, comment tu veux arriver à ce grand cadeau, pépère? Pépère, c'est pas juif. Il n'y a pas. Zohar dit, il y a une klipa, une force humaine qui s'appelle Hinam. Hinam, c'est gratuit. Gratuit, se dire, ça sent pas bon, il y a un problème là. C'est tordu. Pas possible, il n'y a pas gratuit dans ce monde. Que dans la descente. Pourquoi? Parce que Dieu a créé un monde de bien et de mal. Il veut que nous, par nous-mêmes, on accède au bien. Donc ça signifie, ça implique forcément effort. Si tu as un choix, choix signifie qu'il y a un déplacement de l'être vers. Ça suppose, ça implique un effort. Donc il y a un effort maintenant. Plus l'option bien, elle est haute, plus l'effort, il est énorme. Attends, Dieu est bon. Pour avoir véritablement, pour payer vraiment, véritablement, le prix que vaut la Torah, Olam Haba, ou la terre d'Israël, on devrait subir des souffrances de milliards d'années, le prix que ça coûte d'effort pour arriver à une chose pareille. Je te fais un rabais. Quelques petites embûches au début, clic-clac, comme ça, tac. Choumdava. C'est rien. Pourquoi Dieu fait ça? Pour que on puisse dire, on a pas reçu gratuit. J'ai fait quand même un effort, ça me revient. Tu parles. Il nous donne tout gratuit. Il te donne 1 million. Dit, soit, fais un petit effort. Quelqu'un veut donner de l'argent à un pauvre. 1 000 dollars. Il ne prendra jamais. Il dit, écoute, rends-moi service. Il y a ma cave, ça fait 3 ans que c'est comme ça. Terrible. Prends 2 jours, nettoie ça là-bas. Après 2 jours, tu vas... Tu m'as sauvé. Tiens, je te donne 1 000 dollars. Comment on parle le pauvre? Content. Il est généreux. Mais ce n'est pas gratuit, ce n'est pas la tzedaka. J'ai bossé pour. On sait bien que c'est la tzedaka que Dieu nous fait. C'est ça, la Israël. Surtout à notre époque, où Machar arrive très bientôt et les grands rabbins, alors moi je chaperai, dit sans cesse, la nuance, la différence qu'il y aura entre la terre d'Israël et l'étranger quand Machar reviendra, c'est... Il m'a dit, quand les miracles commenceront ici en terre d'Israël, on ne pourra plus venir de l'étranger ici. Donc toi, tu es dans le bateau déjà, tu es là. Tu veux pas payer un peu?
Il y a un risque de retourner en vacances.
Il y a un risque de rentrer en vacances à l'étranger. C'est un très gros risque. Quand mon meilleur copain s'est marié, en Suisse, lui venait à mon mariage. Alors, normal, je pars à son mariage, la moindre des choses. Donc, lui, je pars à son mariage. Ma femme me dit, moi aussi. Comment toi aussi? Enfin, non, enfin, moi j'y vais, toi tu restes avec des enfants. Pas question, je viens aussi. Bon, on va voir le rabbin Sina Bachaoul. Je lui dis, écoutez, voilà, mon meilleur copain qui se marie, je vais aller au mariage, ma femme aussi venir, c'est compliqué, imagine, qu'est-ce que je fais? Pourquoi elle veut venir? Parce que toi tu viens. Et toi tu peux y aller, tu peux pas y aller, tu restes. Pourquoi je peux pas y aller? Tu veux quitter la terre d'Israël pour un mariage? Interdit, tu restes en Israël. Je comprends pas. Et son meilleur copain, il venait à mon mariage aussi? Interdit. Interdit. La première fois de ma vie que je suis parti d'Israël pour aller à un séminaire à Paris. Prendre Bradar Abbesson, je lui dis, ma première question qui m'envoie jusqu'à aujourd'hui, Kodara, mais si quand je suis à Paris, ma chère, il vient, j'ai l'air bête. Il m'a dit, tu vas pour une mitzvah, là-bas, t'es comme en terre d'Israël. Si tu vas pour une mitzvah qui légitime le fait de quitter la terre d'Israël, ça va? En vacances? Qu'est-ce que c'est? Je comprends pas, t'es le plus beau pays du monde ici. Plus beau pays du monde. Sans.
Et les parents, c'est même.
Bonne question, les parents, il est permis.
C'est pas une mitzvah d'aller assister à un mariage?
Oui, mais pas suffisamment grande pour légitimer de quitter Israël. Il y a quatre choses qui légitiment quitter Israël. Trouver une femme. Cherche, étudier la Torah chez un rabbin. Je trouve pas, j'ai quitté, étudié bien en terre d'Israël. Il faut que j'aille à l'étranger. Sauver les juifs. Et si vraiment ici c'est la famine. On s'en sort pas, alors t'as pas le choix, tu pars. Et Rambam dit, et après il faut revenir. Pas j'ai trouvé ma femme, bon j'y reste. Tu la prends, tu reviens.
Rav, aujourd'hui quelqu'un qui va à Elat, c'est comme si qu'il endort.
Bien sûr. Elat, c'est l'étranger. Donc aucune conquête, ni Babel, ni Mitzrayim, on a été là-bas. L'État d'Israël, ok, alors les gens, ils aiment bien qui, quoi, comment, bon, c'est politique. Au niveau de la Torah stricte, Rabban Sion, il écrit très, très clairement, on fait un jour. On fait deux jours à Elat. Et après tout cela, c'est les mitzvah des Rabbanan qui ont habité Israël. Chigrin me dira maintenant, qu'est-ce qui est préférable? Habiter Israël en étant Mechael Shabbat, ou habiter l'étranger en étant Shomer Shabbat? 1 milliard de fois plus. C'est mieux d'être Shomer Shabbat à Paris que de Mechael Shabbat en Israël. Plus que cela, vu que tu es ici dans le palais du roi, tu es dans le monde surnaturel, tu es à proximité extraordinaire de Dieu, tu te permets d'être Mechael Shabbat ici, mais fiche le camp, espèce de... C'est une mitzvah des Rabbanan. Nous, on a une hiérarchie. Mitzvah des Rabbanan, positive, c'est le plus petit. Comme habiter la terre d'Israël, c'est une loi positive des Rabbanan. Après, une mitzvah négative, ne pas des Rabbanan. Après, une mitzvah positive d'Oraita. Après, une négative d'Oraita. Après, qui sont sanctionnés par Karet. Après, sanctionnés par la mort du Bedin. Est à 4 niveaux. Le plus bas, c'est Henek. Après, Saif. Après, on appelle Herek, c'est Saif. Après, Srefa. Et après, Skila. Shabbat, c'est là. Skila. Terre d'Israël, avec toute la grandeur, je fais un cours entier là-dessus, c'est que la dernière. On ne peut pas dire maintenant, alors, inverse. Absurde. C'est marqué dans le Shulchan Aruch qu'on a le droit de faire écrire un contrat d'achat d'un terrain en Israël par un goy pendant Shabbat. Pour me dire à quel point c'est important cette mitzvah de habiter la terre d'Israël. Je dis, mais pourquoi c'est pour un goy? Si tu me dis maintenant que mieux vaut être habité en Israël, même auprès du Mechael Shabbat, qu'un juif fasse le contrat. Pas marqué, c'est marqué un goy. Plus bon, toute une argumentation qu'on pourra avoir là-bas. Que dire encore sur la terre d'Israël? Il y a une Gemara Ktubot 111. Un élève vient chez son rabbin et dit, Kvod Harav, mon frère est décédé maintenant à l'étranger. Sa femme n'a pas d'enfant. Est-ce que j'ai le droit de quitter maintenant la terre d'Israël pour aller faire la mitzvah du Lévira? Lévira, lorsque, Chas v'Shalom, on a un frère qui est mort sans enfant, alors il y a la mitzvah de se marier, le Yiboum, le Lévira en français, le Yiboum en hébreu, de se marier avec la femme du défunt, pour amener des enfants. Les Ashkenazim ne font plus cette mitzvah, ils font la chalitza. Si elle ne veut pas, la femme, l'homme ne veut pas, il peut faire une autre cérémonie qui s'appelle la chalitza pour se désengager de cela. Eux le font toujours. Sfaradim, jusqu'aujourd'hui, peut faire le hiboum sans problème. Il y a des cas actuels et ça se fait. Alors, pour la question, moi maintenant, je dois faire le hiboum, donc marié avec ma belle-sœur, mais elle habite à l'étranger. Est-ce que je dois quitter Israël pour aller maintenant me marier avec elle? Le rabbin répond, son frère, s'il marie avec une goya, Bon, Hachem, Dieu l'a tué, et lui maintenant demande de faire la même chose. On ne comprend rien du tout. C'est une Goya, il n'y a pas de lévière avec une Goya. Alors, c'est quoi cette histoire-là? Et c'est que Maharsha, c'était une juive. Mais pour dire le fait tellement mauvais que lui, le frère habitait l'étranger, et que maintenant le frère veut descendre, l'autre frère, le vivant, veut maintenant descendre faire la même chose, il dit, t'habitais l'étranger. Et Dieu t'a tué, bien fait pour toi. Toi, tu vas faire la même chose maintenant à l'étranger? Come home. Mais attention, c'est vrai, je fais un cours que tout le monde va venir en Israël, c'est bien, mais attention, on monte de façon intelligente. On monte pour monter en Israël, spirituellement. On ne monte pas ici pour baisser. Beaucoup de juifs montent en Israël et perdent Torah. Parce que l'État d'Israël, il est contre la Torah. C'est très clair. L'État d'Israël laïque, c'est un État laïque. Des lois qui ne sont pas comme la Torah, très souvent contre la Torah. On nous fait une gay pride bientôt à Jérusalem. Il y a l'élevage de cochons pour consommation dans le bas du pays. Tu as des maisons de passe officielles permises, ce qui n'est pas le cas à Paris. Mais beaucoup de trucs pas bien. Alors quelqu'un qui veut aller dans le... On dit que le Yetzer Hara raconte un mort un jour, il a voulu monter en Israël. Alors, il a convaincu le Sarah, il lui a dit, écoute, moi je monte en Israël, maintenant je vais dans la Terre Sainte, alors je fais un contrat avec toi, c'est fini, je ne te vois plus jamais. Et le Sarah dit, c'est bon, il signe. Bon, l'Admor est content, il va en Terre Sainte, maintenant plus le Sarah. Il descend de l'avion, qui y voit, le Sarah dit, mais tu m'as promis qu'on ne se verrait plus. C'était mon collègue, là-bas c'est la succursale, ici, là-bas c'est la succursale, ici c'est le siège central. Israël, c'est le siège central du Yetzirah aussi. Il est impossible que tu aies beaucoup de Ktoucha sans qu'il y ait aussi beaucoup de mal. C'est comme ça. Tant qu'il y a bien et mal jusqu'à l'époque messianique, plus tu as de bien, plus tu as de mal. C'est pour qu'on ait le libre arbitre. Donc le centre du mal est là aussi, à quelques kilomètres. C'est vraiment. Tu prends Mea Shearim, c'est super Kadosh. Tu vas 200 mètres à droite, c'est super Tamé. D'accord? C'est. Dans toutes directions d'ailleurs. T'as ce que tu veux. Comme sur la débauche, tu as la Vodazara, tu as tout ce que tu veux. Comme, d'accord? Donc, là aussi, Yetzirah. Et beaucoup de pauvres juifs, qui sont des bons juifs, qui viennent par mots de la terre d'Israël, viennent ici et splatch. Leurs enfants avec Tatiana qui n'est pas juive, avec Natacha qui n'est pas juive, avec Najma. Ici en Israël. Bon, je vais pas raconter des histoires. Donc il y a un danger aussi. Donc attention où on va, dans quelle école, dans quel quartier. La parnasse va venir ici et repartir déplumée après 2 ans, ça sert à rien non plus. Donc il faut monter intelligemment. Mais il faut monter. Alors t'achèves que Dieu ramène tous nos frères en terre d'Israël rapidement, et que rapidement on reçoive Mashiach dans l'allégresse. Amen.